Nous lirons les passages qui ont trait au ministère de cet homme de foi dont nous voulons nous entretenir aujourd'hui, Jean le Baptiseur. Nous lirons tout d'abord dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 5. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 5. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Or il arriva, pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère. Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Nous lirons à la fin de ce chapitre le verset 80. Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Nous lirons maintenant dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3. Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 1er. Or, en ces jours-là, vient Jean le Baptiseur, prêchant dans le désert de la Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Car c'est ici celui dont il a été parlé par Ésaïe le prophète, disant, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Or, Jean lui-même avait son vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Dans l'évangile de Luc de nouveau, au chapitre 3, verset 3. Et Jean alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance en rémission de péché, comme il est écrit au livre des paroles d'Ésaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline sera abaissée, et les choses tortues seront rendues droites, et les sentiers raboteux deviendront des sentiers unis, et toute chair verra le salut de Dieu. Il a été décidé, donc, de considérer ensemble le ministère de ce grand serviteur, Jean-Baptiste. Nous ne pouvions pas passer, bien sûr, sous silence complètement sa naissance. Ce n'est pas le but premier de l'entretien, mais il nous fallait quand même parler un peu de sa naissance et des circonstances qui caractérisaient le peuple d'Israël au moment de sa naissance. Tout semblait dans le peuple d'Israël, tout semblait en ordre. Il y avait une religion officielle, il y avait des sacrifices qui étaient offerts, le service dans le temple continuait. Il n'y avait plus de lutte ouverte contre l'Éternel, tout semblait être en ordre. Mais le cœur du peuple n'était pas disposé, et au jour de Zacharie et au jour de ce petit résidu qui se trouvait là, résidu bien faible, qui se trouvaient là à cette époque. La grosse majorité du peuple n'avait pas le cœur pour l'Éternel, n'avait pas de cœur pour Dieu, pour son Dieu, et c'était une religion de forme et sans la vie. Il y avait pourtant ce petit résidu qui était bien faible, dont Zacharie et Élisabeth sont une image. Nous voyons qu'ils étaient pieux, ils observaient les commandements de l'Éternel, mais ils étaient bien faibles, et nous voyons que, en particulier Zacharie, lorsque l'ange s'apprête à lui parler, est troublé, alors que cela nous fait penser qu'il n'avait pas souvent de relation directe avec l'Éternel. Nous voyons qu'il était troublé et qu'il ne se sentait pas la liberté et la confiance lorsque l'ange lui parle vis-à-vis de l'Éternel. Mais malgré leur faiblesse, l'Éternel avait les yeux fixés sur ce résidu. Et nous, comme nous l'avons dit, Zacharie et Élisabeth en sont une image. Et il n'y avait aucun fruit pour l'Éternel dans ce peuple. Le peuple était stérile quant à les fruits qu'il pouvait rendre à l'Éternel. Cet état correspondait vraisemblablement à peu de choses près à celui qui nous est décrit dans Malachie. C'est à ce moment-là que l'ange apparaît à Zacharie et lui annonce la naissance de ce fils qui sera nazaréen dès le ventre de sa mère. Il ne boira ni vin ni boisson forte, il devra vivre séparé du restant du peuple. Nous verrons comment ces choses se sont passées, n'anticipons pas, et nous voyons à la fin de ce chapitre premier de l'évangile de Luc, où cette naissance est annoncée, nous voyons alors que l'enfant croissait, verset 80, et se fortifiait en esprit, et il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. C'est son enfance, il y a d'autres détails que nous évoquerons probablement, mais le sujet principal est le ministère de Jean-Baptiste. Et nous voyons dans l'évangile de Matthieu le commencement de ce ministère. Il est dans les déserts, il prêche la repentance, le Seigneur lui-même l'avait qualifié comme le plus grand des prophètes, et pourtant nous ne voyons pas, comme dans un Élie, par exemple, la puissance qui caractérisait Élie, qui marchait devant l'Éternel en puissance et qui accomplissait des miracles, ou Élisée. Mais il était simplement, et la parole nous le dit à plusieurs reprises, la voix de celui qui crie dans le désert. Et son ministère se passe en effet dans le désert. Il était séparé du reste du peuple, et nous avons vu encore dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, un autre aspect de son ministère, et il est répété « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Il devait donc annoncer la venue de celui que le peuple aurait dû attendre et que seul un petit résidu attendait. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même peut l'appeler le plus grand des prophètes, parce qu'il annonçait la venue de celui qui devait venir et délivrer le peuple qui était sous le joug romain, à condition qu'il le reçût, délivrer et en particulier délivrer aussi les hommes qui étaient sous le joug de la loi et apporter la grâce et la vérité. C'est-à-dire Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'était le ministère particulier de Jean le Baptiseur d'annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ.
C'est donc le sujet de Jean le Baptiseur qui est envisagé aujourd'hui. La structure qui avait été placée devant les frères était la suivante, comme plusieurs de nos écrits nous le présentent, voir en lui déjà un homme de Dieu, dans son caractère, sa grandeur morale, sa grandeur personnelle. Et nous avons quelques détails qui nous sont donnés là, tout particulièrement dans l'évangile de Luc, dans d'autres également, mais concernant l'homme de Dieu mis à part. Et puis, une première de ses missions c'est la mission du prophète. La mission du prophète, nous la trouvons dans les trois évangiles synoptiques, nous la trouvons dans Marc, dans Matthieu, bien sûr, et dans Luc. Et peut-être, pour achever la mission du prophète, y aura-t-il lieu, dans un moment, de lire la fin du paragraphe de Luc, qui a été commencé et qui nous parle de la mission du prophète. Qu'est-ce qu'un prophète ? C'est quelqu'un qui se présente devant le peuple et qui lui délivre un message de la part de Dieu, ce que Dieu lui demande de dire. Et c'est à ce premier aspect, essentiellement à cet aspect du prophète, que nous nous en tiendrons ce matin. Il était plutôt envisagé dans l'après-midi de voir un deuxième aspect de la vie de Jean le Baptiseur. C'est l'aspect du témoin. Le témoin, alors, n'est plus quelqu'un qui se tient devant le peuple pour l'avertir et délivrer son message. C'est quelqu'un qui se tient devant son Seigneur. Et c'est la manière très particulière dont Jean le Baptiseur nous est présenté dans l'évangile de Jean, et en particulier au premier chapitre de l'évangile de Jean. C'est pourquoi cet après-midi, nous lirons essentiellement les versets du premier chapitre de l'évangile de Jean qui concernent Jean le Baptiseur. Nous demandons donc à nos frères de bien vouloir ne pas aborder cet aspect du message, de la mission de Jean le Baptiseur dans ce matin. Nous verrons également cet après-midi la défaillance de Jean, sa mise en prison, c'est donc Matthieu 11, la mise en prison et sa mort brutale. Donc, tous ces éléments du témoin, la défaillance, allant jusqu'au sacrifice, ceci est pour cet après-midi. La pensée était également de ne pas développer longuement l'attente de Jean le Baptiseur, l'annonce faite à Zacharie, à Élisabeth, à Marie, tout ce qui concerne ces premiers chapitres de l'évangile de Luc, mais plutôt de voir déjà l'homme. Quoi qu'il en soit, il faut bien quand même situer cette période. Dieu avait autrefois parlé à son peuple. Son peuple amené dans le pays de Canaan avait eu la sacrificature, avait eu la royauté, et puis le peuple s'était de plus en plus écarté de son Dieu, et Dieu alors avait envoyé des prophètes. Il avait envoyé des prophètes, ils n'avaient pas été écoutés, les jugements annoncés étaient arrivés, et ça avait été la déportation, d'abord des 10 tribus, puis de Juda à Babylone, comme nous le savons, en Assyrie, puis Juda en Babylone. Après les 70 années de déportation, Juda en partie rentre dans sa terre et Dieu à nouveau va parler à ce peuple par les quelques prophètes qui ont suivi le retour du peuple en Palestine. Et ce sont en particulier les derniers prophètes que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Les plus importants que nous connaissons, c'est bien sûr Agée, Zacharie et Malachie. Le dernier prophète qui avait parlé à Israël était donc Malachie. Et puis, pendant 450 ans, Dieu s'était tu. Dieu s'était tu. C'est un point important, ça, quand Dieu se tait. Il peut se taire dans une vie. Il peut se taire dans une famille. Il pourrait hélas se taire peut-être dans une assemblée pour que chacun soit amené à réfléchir. Pourquoi Dieu ne parle-t-il plus comme il parlait autrefois? Ici, Dieu, pendant 450 ans, s'est tu. Et pourtant, dans cette dernière prophétie de Malachie, il y avait des choses annoncées. Nous pouvons lire, pour faire le trait d'union entre l'Ancien Testament et ce qui est devant nous, deux expressions donc de la prophétie de Malachie. Au chapitre 3, le début, « Voici, j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi, et le Seigneur que vous chercherez viendra soudain à son temple. » et l'ange de l'Alliance en qui vous prenez plaisir, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et tout à la fin du chapitre 4 également, verset 5, voici, je vous envoie Élie le prophète avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel, et il fera tourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Et voilà que soudain, chaque chose allait son train, les sacrificateurs continuaient leur travail, les pharisiens et tous ceux qui se disaient religieux continuaient leurs activités diverses, ils observaient la loi, plus ou moins, avec tout ce qu'ils y avaient ajouté, mais l'on était là sous la domination romaine. Et au milieu de tout cela, de cet état de choses, quelques-uns, ceux qui craignaient l'Éternel, que l'on trouve à la fin de Malachie, attendaient, mais attendaient de façon positive. Ils parlaient l'un à l'autre. Et dans le ciel, un livre de souvenirs était écrit. Ces conversations touchaient l'oreille de Dieu, qui lui attendait et qui allait un jour se révéler et d'une manière toute nouvelle. Et nous assistons là, avec cette scène de l'avènement de Jean le Baptiseur, à la merveilleuse réponse de Dieu à l'attente des fidèles.
C'est un moment particulièrement important que celui où Jean apparaît. Nous sommes là entre l'Ancien et le Nouveau Testament, en fait entre deux économies, deux périodes, ce qu'on appelle les dispensations. Et Dieu ayant parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là va parler dans le Fils. Mais ce Fils doit être introduit. Et ce changement de dispensation, cette fin de la période d'Israël, est un moment spécialement sérieux. Un moment où Dieu doit constater que tout ce qu'il a fait pour ce peuple a abouti à une ruine totale, et qui va être consommée dans le rejet du Seigneur Jésus. Ceci encore pour situer, et puis avec quelques considérations pratiques comme nous pouvons le constater. Nous sommes donc là à la fin d'une dispensation, une nouvelle va être introduite, celle de la grâce, où notre Seigneur va apparaître. Et Dieu prépare cela par un instrument qu'il prépare pour cela. Mais si nous sommes là à la fin d'une dispensation, aujourd'hui, nous sommes aussi à la fin d'une dispensation. Et c'est ce qui rend le sujet qui nous occupe aujourd'hui spécialement important. Et nous pouvons en tirer pour chacun de nous des considérations très pratiques. À la fin de ce temps, il n'y a plus que quelques personnes qui attendent, qui parlent l'une à l'autre, un petit résidu sans prétention. Ce ne sont pas les grands en Israël, les chefs du peuple qui attendent, mais non, il y a quelques personnes, toutes simples, toutes humbles, et que le début de l'évangile de Luc nous présente d'une manière spécialement touchante. Ces quelques personnes qui sont là et qui attendent. Et pour nous aussi, frères et sœurs, à la fin de cette période de l'Église, nous pouvons dire qu'il n'y a plus une attente généralisée dans la chrétienté, mais par pure grâce, le Seigneur veut réveiller quelques cœurs pour attendre non plus sa première venue, mais sa seconde venue. Il y avait ces quelques personnes dont le cœur était prêt à recevoir celui que Dieu donnait en grâce. Et aujourd'hui, Dieu veut réveiller, réchauffer les cœurs des siens pour attendre la seconde venue de son Fils. On voit donc, quand on arrive à un moment crucial, un moment important dans l'histoire des voies de Dieu envers l'homme, combien le cœur de Dieu se plaît à préparer quelques cœurs. Et pour rester dans le domaine pratique, nous pouvons dire, nous avons là les parents de Jean le Baptiseur. Et ces parents nous sont présentés avec leur piété, mais aussi avec leur défaillance, pour Zacharie en tout cas. Mais nous avons là un milieu privilégié. Et beaucoup de jeunes ici, beaucoup d'entre nous, ont eu le privilège d'être élevés dans un tel milieu privilégié, de venir au monde accompagné par les prières de parents, et de recevoir une éducation propre à les préparer pour obéir au Seigneur et pour l'attendre du ciel. Alors que la considération de Jean, de cet enfant qui a été reçu par ses parents, qui l'ont attendu, qui l'ont reçu du Seigneur, qui ont eu le souci d'une éducation selon Dieu, que cet exemple-là nous parle aux parents qui ont ainsi la responsabilité d'élever des enfants à la veille du retour du Seigneur, et parle aux enfants aussi qui ont eu ce bonheur d'être introduits dans une famille chrétienne à un moment tel où peut-être tout permet de le penser, leur génération verra ce retour du Seigneur Jésus. Qu'un tel sujet parle à chacun de nous et nous donne conscience de l'importance du moment que nous vivons et du témoignage que nous avons à rendre.
Pour reprendre une expression de l'Épître aux Galates, l'accomplissement du temps est venu et Dieu va envoyer son Fils. Et ici, il se plaît à annoncer ces bonnes nouvelles à ce petit résidu dont on vient de parler, cette partie pieuse, fidèle, qui reste là au milieu d'un peuple qui a abandonné Dieu et qui, proprement parlé, a apostasié. Et on voit que ceux qui sont là sont marqués par l'obéissance, par l'humilité aussi. Pas de grandes choses, mais vraiment, on peut dire qu'il reflète ce caractère que Dieu assigne à tout résidu, en quelque période que ce soit, c'est-à-dire sa crainte. Et c'est précieux de voir comment, d'ailleurs, la première parole qui est adressée à Zacharie par l'ange, c'est « Ne crains pas ». Ne crains pas, Zacharie, verset 13. Tes prières ont été exaucées. Et alors, nous savons dans ce chapitre premier de Luc, un double témoignage sera rendu à Jean le Baptiseur. Le premier par l'ange Gabriel qui est là. Moi je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, verset 19. Et puis ensuite, quand Jean le Baptiseur sera né, eh bien son père sera rempli de l'Esprit Saint, verset 67, et prophétisera et dira aussi des choses extrêmement précieuses de la part de Dieu concernant celui qui sera le précurseur. Ce sera pour ce résidu, comme le dit le Gabriel, un sujet de joie et d'allégresse. Nous savons la place éminente que dans des jours aussi sombres, la joie tient dans ce chapitre premier de l'évangile de Luc. C'est bien remarquable. Nous avons rappelé, chers frères et sœurs, tout à l'heure, que nous sommes nous aussi parvenus tout à la fin. Le Seigneur va venir et nous savons que, en tout cas, la tiédeur laodicéenne se manifeste de toutes parts. Eh bien, rappelons-nous pour la joie de nos cœurs, justement, que le Seigneur veut que les siens, goûtant la communion avec leur Seigneur, eh bien, soit gardé dans la joie, qu'il y ait cette joie qui est indépendante, on peut dire, des circonstances, qui était dans le cœur du Seigneur quand il était ici-bas, cette joie qu'il nous a donnée, disant que personne ne vous ôte votre joie. Eh bien, ici, Gabriel annonce que non seulement Jean le Baptiseur sera un sujet de joie et d'allégresse, mais que plusieurs se réjouiront de sa naissance. Et il est dit de lui qu'il sera grand devant le Seigneur. Ce serait certainement intéressant de voir dans ce chapitre où il est aussi beaucoup parlé de la naissance de notre Seigneur, de voir combien les choses sont bien mises à leur place. Si Jean est grand, eh bien il est grand devant le Seigneur. Et nous savons que lui-même, d'ailleurs, sera rempli d'humilité et saura reconnaître combien celui qu'il sert est plus grand que tous. Et puis il sera rempli de l'Esprit Saint, et puis il est parlé aussi de son message de foi. Dans ce verset 17, 16 et 17, il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Il fera retourner les cœurs des pères. On voit le travail que le Saint-Esprit veut opérer par le moyen du précurseur pour qu'il y ait une préparation pour la venue de celui qui va paraître.
Concernant cette naissance de Jean, il y avait eu des prières chez Zacharie et Élisabeth. Et il est vraisemblable que, arrivé à l'heure de l'impossibilité humaine, la prière s'était arrêtée et ils avaient jugé que la pensée de Dieu était autre. C'est un point important, cela. Et voilà que l'heure de l'impossibilité de l'homme, ils étaient vieux, avancés en âge l'un et l'autre, devient l'heure de Dieu. C'est souvent ainsi dans nos vies. Nous prions et nous nous appuyons quelquefois en même temps sur quelques béquilles humaines. Et Dieu attend. Et Dieu attend que les béquilles, une après l'autre, tombent. Et l'heure de Dieu vient et il répond. De façon merveilleuse, son nom sera Jean, dit l'ange. Jean, c'est-à-dire faveur de l'Éternel, ou l'Éternel a fait grâce. Quel nom merveilleux, l'Éternel a fait grâce. Alors Zacharie demanda un signe, mais comment pourrais-je? D'autres avaient bien demandé un signe. Autrefois, Manoah avait demandé un signe, autrefois Gédéon avait demandé un signe, et même deux, et des signes avaient été donnés. Tu veux un signe, tu en auras un. Tu seras muet, tu seras muet. Et pendant toute la conception de cet enfant, pendant tous ces mois-là, Zacharie sera un homme muet. Mais nous voyons que ce temps d'exercice, de patience, de mutisme, a été pour Zacharie un temps d'approfondissement. Nous nous interrogeons sur l'épreuve, celle-ci, celle-là, pour l'un, tel autre, pour l'autre. Quel temps d'épreuve pour celui qui allait avoir ce grand sujet de joie, d'être muet, ne plus pouvoir même traduire sa propre joie. Le résultat en sera ceci, il demande des tablettes à la naissance de l'enfant, il écrit Jean et son nom, il en avait eu la révélation, l'ange lui avait dit, il sera appelé Jean. Et puis, va-t-il faire l'apologie de cet enfant? Quel bel enfant! Absolument pas. Son regard est tourné vers celui et uniquement vers celui dont Jean est le précurseur. Son regard et sa pensée sont tournés vers plus grand que Jean. Déjà, il est conscient qu'il faudra que lui diminue et que celui qu'il annonce croisse. Et Jean est là, et le dernier verset, alors de ce chapitre 1, de l'évangile de Luc nous dit l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation en Israël. L'école de Dieu pour cet enfant dès l'adolescence était le désert. Le désert, ce sera son lieu d'école et ce sera le lieu de son ministère. Mis à part, Dieu le forme. Dans le désert, Dieu pourra se servir de lui. Il était déjà dans un lieu où moralement tout était désert, il n'y avait rien pour Dieu. Mais Dieu le met à l'écart. Il met à l'écart Paul, il avait mis à l'écart Moïse, il a mis à l'écart ses serviteurs, et maintenant Dieu l'a formé. Et le ministère alors va pouvoir commencer.
La parole souligne que Jean-Baptiste sera grand. Et le Seigneur nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 16, le plus grand des prophètes. C'est le plus grand des prophètes parce que c'est le seul prophète dont le ministère a été en quelque sorte associé ou qui a précédé le ministère du Seigneur. Et la parole de Dieu nous parle dans ce chapitre 3 de l'évangile de Matthieu que Jean-Baptiste baptisait. Il baptisait, nous dit l'évangile de Jean, en Énon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Mais dans ce chapitre 3, le Seigneur vient pour demander à Jean le baptême de la repentance. On peut difficilement comprendre que celui qui était parfait demande le baptême de la repentance. C'était le message de Jean-Baptiste. Eh bien, on comprend que dans ce passage, le Seigneur lui dit « Il est convenable d'accomplir toute justice ». Et pourquoi cela? Parce que dans ce baptême de la repentance, le Seigneur s'identifiait à ceux que le psaume 16 appelle aux saints de la terre et aux excellents, en eux j'ai trouvé toutes mes délices. Et le Seigneur s'identifiant à ce résidu dont il est parlé surtout dans l'évangile de Luc, s'identifiant avec eux, accepte d'être baptisé du baptême de la repentance. La parole de Dieu nous dit que la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean. C'est donc un ministère spécial que Jean-Baptiste accomplit, puisqu'il l'accomplit pour précéder le ministère du Seigneur. Mais c'est en même temps la fin d'une dispensation. La loi, nous est-il dit, et les prophètes ont été jusqu'à Jean. Alors, combien il est précieux de voir que le Seigneur trouvait dans ce résidu pieux que nous trouvons surtout au début de l'évangile de Luc, aux saints de la terre et aux excellents, en eux j'ai trouvé toutes mes délices.
Nous ferons une lecture dans le chapitre 3 de l'évangile de Luc au verset 7. Pour continuer ce que nous avons déjà lu au commencement de cette heure. Luc chapitre 3 verset 7. Il disait donc aux foules qui sortaient pour être baptisées par lui, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits qui conviennent à la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que Dieu peut, de ces pierres, susciter des enfants à Abraham. Et déjà, même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et les foules l'interrogèrent, disant, « Que faut-il donc que nous fassions ?» Et répondant, il leur dit, « Que celui qui a deux tuniques en donne à celui qui n'en a point, et que celui qui a des vivres fasse de même. » Et des publicains vinrent aussi pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que faut-il que nous fassions ? » et il leur dit « Ne percevez rien au-delà de ce qui vous est ordonné. » Et des gens de guerre l'interrogèrent aussi, disant « Et nous, que faut-il que nous fassions ?» Et il leur dit « Ne commettez pas d'extorsion, ni n'accusez faussement personne, et contentez-vous de vos gages. » Et comme le peuple était dans l'attente, et que tous raisonnaient dans leur cœur à l'égard de Jean, si lui ne serait point le Christ, Jean répondait à tous, disant « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent dans sa main, et il nettoiera entièrement son air, et assemblera le froment dans son grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible. »
Encore quelques pensées sur le message de l'ange Gabriel à Zacharie en Luc, chapitre 1er. Tout d'abord, cet enfant est un sujet de joie et d'allégresse pour Zacharie, pour les parents, pour ceux qui bénéficieront du fait qu'il est tout à la fois un homme de Dieu et le prophète de l'Éternel. Un enfant qui est un sujet de joie quand il est donné par Dieu et que Dieu a en vue de l'utiliser pour qu'il apporte une bénédiction à sa propre génération, au peuple de Dieu. Quelle bénédiction pour un foyer qui reçoit ainsi un enfant de la part de Dieu. Et quelle sainte crainte aussi devrait s'emparer du cœur des parents pour élever un tel enfant sous la discipline et les avertissements du Seigneur. Et si un enfant est amené à la foi dès son jeune âge, on le voit dans l'Écriture comme Samuel, comme Jean-Baptiste, on peut le dire, Jean le Baptiseur, eh bien, il apporte une bénédiction et procure une vraie joie à ses parents. Et puis, il est ajouté qu'il sera grand devant le Seigneur. Cette grandeur relative de Jean, et elle met en évidence, bien sûr, la grandeur absolue du Seigneur lui-même. Et Jean, pour ainsi dire, nous conduit toujours au Seigneur. Il est admirable comme homme lorsque il se courbe devant le Seigneur et qu'il donne au Seigneur toute la gloire qui lui revient. C'est une disposition constante de cet homme de Dieu de mettre en évidence les gloires de Jésus, lui-même étant courbé dans la présence de celui qui est grand en lui-même. Et il est ajouté, il ne boira ni vin ni cervoise. Voilà un des traits dominants du vrai Nazaréen. Ce qui est à mettre en relation avec la proposition qui suit sans aucun doute, à savoir qu'il sera rempli de l'Esprit Saint. Le Nazaréen, nous avons les prescriptions qui nous sont données en nombre 6. Et trois points devaient être respectés pour un Nazaréen qui, bien sûr, se tenait au milieu du peuple de Dieu, mis à part, alors que pour nous aujourd'hui, chaque croyant a tout ce qui est nécessaire de la part de Dieu pour être un vrai Nazaréen, c'est-à-dire séparé pour Dieu dans ce monde. Il nous est dit qu'il ne devait manger rien de ce qui et fait de la vigne depuis les pépins jusqu'à la peau. Ici, c'est ce caractère qui m'est mis en évidence chez celui qui est l'homme du désert, qui exerce son ministère dans le désert, qui a les attributs, la nourriture de l'homme du désert. Eh bien, il est séparé de toutes les joies que le monde peut offrir, les joies de la société humaine dans son état d'éloignement de Dieu moralement. Eh bien,
Jean le baptiseur ne boit pas cette coupe. Comme Moïse, comme tous les hommes de Dieu suscités en leur propre génération. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu sans doute souligne ce caractère. Donc le croyant, le vrai Nazaréen est mort au monde. Les deux autres caractères qui nous sont soulignés dans les noms au chapitre 6, c'est qu'il ne devait pas couper sa chevelure, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il faisait en quelque sorte abandon de sa dignité naturelle en vue d'être soumis à l'autorité de Dieu. C'est toujours le symbole de la longue chevelure que reprend Paul à propos de la femme. Eh bien, la femme, son caractère dominant, c'est la soumission dans la crainte de Dieu, de Christ, à son mari. Et puis, le troisième point, c'est que il ne devait s'approcher d'aucune personne morte. Donc, dans le deuxième point, il est mort au moins, et dans le troisième, mort au péché. Voilà tous les caractères du vrai Nazaréen, de celui qui est arraché, pour ainsi dire. Et la conséquence toute naturelle, eh bien, c'est qu'un tel vase de la miséricorde de Dieu est rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, sa mère aussi, cela nous est dit, au verset 41 du même chapitre, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et nous connaissons tous cette exhortation dans les Éphésiens où nous sommes invités à être remplis du Saint-Esprit en évitant tout ce qui peut nous enivrer et que le monde aujourd'hui plus que jamais nous offre à profusion. Eh bien, voilà le point important qui va marquer toute la vie de Jean-Baptiste comme homme de Dieu, mais aussi comme prophète, pour que la puissance du Saint-Esprit accompagne les paroles que cet homme dit avec beaucoup de sobriété, mais une percussion évidente. Il touche tout à la fois, comme le font tous les hommes de Dieu de tous les temps, le cœur et la conscience. Eh bien, il était nécessaire que cet homme de Dieu soit rempli du Saint-Esprit. Et combien cela est important si nous désirons porter moralement les caractères d'hommes et de femmes qui sont consacrés à Dieu. Nous voyons d'ailleurs que le Nazaréat pouvait disparaître par négligence, bien sûr, mais il y avait une possibilité de redevenir Nazaréen, et nous admirons toute la grâce de Dieu à cet égard. Et bien sûr, c'est une éclipse, comme il y en a en chacune de nos vies, et vis-à-vis de laquelle nous devons être exercés, bien sûr, pour retrouver, moyennant la confession, le jugement de toutes nos voies, le jugement de nous-mêmes, côté préventif pour chacun de nous, retrouver cette communion qui est si fragile et à laquelle nous sommes tous admis par pure grâce. Donc, Jean le baptiseur était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et nous voyons cette plénitude qui apporte la joie et la force. Déjà, quand il y a la salutation de Marie à Élisabeth, le petit enfant, nous est-il dit, tressaillit dans son ventre. Il y a là, en quelque sorte, une manifestation de joie que produit le Saint-Esprit et qui ne quittera pas Jean le baptiseur, puisque dans un de ses derniers messages, il parle de sa joie accomplie. La joie de l'Éternel est votre force, est-il dit à propos de Néhémie. Donc, puissance et joie sont manifestées dans ce vrai Nazaréen, mis à part pour Dieu, qui va être employé d'une façon tout à fait remarquable pour ouvrir le chemin au Seigneur venant dans ce monde pour y accomplir l'œuvre de la rédemption.
Gabriel est donc envoyé, cet ange dont le nom signifie Dieu puissant, pour annoncer cette bonne nouvelle. Il avait été en exercice également pour communiquer deux messages importants à Daniel. Certainement que Dieu pouvait réaliser et exaucer les prières de ce couple qui souhaitait avoir un enfant sans faire appel à cet ange. Mais sa présence et son intervention soulignent l'importance de celui qui va naître. La nature de sa personne est celle de son service. Par ce messager Gabriel, en quelque sorte une prophétie est donnée à l'égard de Jean le Baptiseur. Il y avait des obstacles nombreux, principalement la stérilité, la vieillesse, mais nous voyons que les voies divines et l'intervention de sa grâce ne sont pas arrêtées par les lois de la nature. On remarque également que la loi et le raisonnement humain se taisent devant les ressources et les moyens de la grâce. Zacharie est rendu muet. Il a été souligné cette réalité du fait qu'il est rempli de l'Esprit. Jean le Baptiseur sera rempli de l'Esprit. Un homme, un vase dans lequel cette puissance divine peut agir librement, en qui elle ne rencontre pas d'obstacle. Quelle chose ? Rempli de l'Esprit. Et nous ne voyons pas qu'il soit dit qu'il sera rempli de l'Esprit lorsqu'il commencera son ministère. Mais il l'est même dans le sein de sa mère. Mais en cela, nous avons aussi la distinction par rapport au Seigneur, ce qui sépare toujours le Seigneur de sa créature, si remarquable et fidèle qu'elle puisse être, le Seigneur a été conçu du Saint-Esprit. Ce ne fut pas le cas, bien sûr, de Jean le Baptiseur. Jean le Baptiseur remplit de l'Esprit cette puissance divine agissant librement et puissamment dans cet instrument que Dieu va employer. Étienne a été aussi rempli de l'Esprit, comme beaucoup d'autres hommes de Dieu, rempli de l'Esprit. Mais en Étienne, appartenant à l'économie de la grâce, en lui comme en tout croyant, habitait cette personne divine, comme hôte divin. Tous les croyants, tous ceux qui ont passé par la nouvelle naissance et qui sont en Christ ont le Saint-Esprit. Nous avons tous, comme rachetés du Seigneur, le Saint-Esprit en nous-mêmes. Mais avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit sont deux choses distinctes. Les deux caractères, comme on l'a évoqué au début de cette heure, de Jean le Baptiseur, sont donc prophète, homme de Dieu. Un prophète, qu'avait-il pour mission ? De communiquer, comme aujourd'hui encore, mais dans des conditions différentes, de communiquer la pensée de Dieu en rapport avec les besoins du moment. Un prophète agissant de la part de celui qui l'envoie, et qui, dans l'Ancien Testament, avait principalement pour mission de ramener le peuple à l'Éternel. Il s'agissait souvent de dénoncer le mal, de l'avertir solennellement quant aux conséquences qui pourraient en résulter, et de le supplier de revenir à l'Éternel, moyennant la repentance. Ministère combien précieux. Aujourd'hui encore, nous sommes exhorté par l'apôtre à demander avec ardeur des dons de grâce plus grands et surtout de prophétiser. Il ne s'agit plus du don qui consiste à communiquer des choses nouvelles inconnues jusqu'alors, mais de les rappeler et d'une communication des pensées de Dieu en rapport avec la nécessité et l'état des cœurs. Son caractère également est celui d'un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu ? Est-ce un homme exceptionnel ? Est-ce un homme qui n'est pas soumis aux tentation de la chair. La parole est là pour y répondre, en nous parlant d'Élie, que c'était un homme qui avait les mêmes passions que nous. Mais c'est un homme qui se tient devant son Dieu. Tel était le cas d'un Élie qui pouvait dire « L'Éternel devant qui je me tiens ?» Il sort de devant son Dieu et il va travailler de sa part devant son Dieu. Un homme qui vit dans la séparation du mal, ce dont témoigne le lieu duquel il sort, celui dans lequel il vit, la nourriture qu'il absorbe, la séparation dont ses vêtements même sont une expression vêtue de poils de bête. L'étanchéité quant au mal dont nous parle également le tissu de poils de chèvre que tissaient les femmes en Exode 35. Un homme qui n'a pas de position à défendre, qui n'a pas d'honneur personnel à défendre, un homme de Dieu qui n'a pas d'autre objet de son cœur que son Dieu, que la gloire de son Dieu, la bénédiction de son peuple, la bénédiction des âmes. Un homme de Dieu, mentionné tant de fois à l'égard de tant d'hommes dans la parole, Élisée est certainement celui qui porte ce titre le plus grand nombre de fois, sauf erreur environ 20 fois. David, 3 fois mentionné homme de Dieu, est les 3 fois chose remarquable, en rapport avec une disposition à la louange. Il dispose le peuple à la louange, l'homme de la harpe. Moïse, homme de Dieu, parlera à la fin de son livre. Ce ne sera plus le grand législateur, c'est l'homme de Dieu. Cet homme qui appartient à son Dieu, qui s'approprie ses pensées, en fait son profit, et réalise sa responsabilité de les communiquer. Est-ce une question d'âge? L'épître à Timothée y est là pour répondre. C'est bien l'homme de Dieu dans le Nouveau Testament qui est caractérisé par la fidélité, mais aussi par la jeunesse. Mets-toi au homme de Dieu. Par qui est-il formé? Par son Dieu. Par quoi est-il formé? Par la parole de Dieu qui le rend accompli pour toute bonne œuvre. C'est ainsi que nous avons cet homme, Jean le Baptiseur, appelé sur la scène au moment où une dernière mise à l'épreuve du peuple terrestre va être démontrée, face à laquelle, bien sûr, il manifestera également son état incurable, mais l'homme de Dieu est appelé pour préparer le chemin de son précurseur. Préparé par un cœur disposé, et quelle est la disposition du cœur pour recevoir la bénédiction divine, quelle qu'elle soit, c'est la repentance.
C'est en effet un mot clé du message de Jean le Baptiseur que celui de la repentance. Et dans le message qui lui est transmis par l'ange Gabriel, cette pensée est soulignée sous la forme de 3 retours devenus nécessaires. C'est dans Luc 1 et au verset 16 où nous lisons, Luc 1 verset 16, « Il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Ensuite, il ira devant lui, dans l'esprit la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants. Et c'est une citation de Malachie qui va un peu plus loin, et Malachie 4, nous l'avons lu tout à l'heure, et au verset 5, « Élie le prophète, avant que vienne le jour terrible de l'Éternel, il fera retourner le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères. » Et c'est là essentiel, parce que tous les prophètes jusque-là avaient engagé le peuple à revenir à la loi et obéir davantage aux exigences de la loi. Sous Jean le Baptiseur, qui est donc à la charnière entre cette période de la loi et la période de la grâce qu'il va introduire, il y a ce message essentiel, celui de la prise de conscience de son péché et de son état irrémédiable devant Dieu et nécessité de la repentance. Un retour des esprits et des cœurs. Il y a trois retours, avons-nous dit. Le premier retour, ce sont ces fidèles qui prennent conscience de leur état irrémédiable. Les œuvres, c'est fini. La démonstration faite depuis des siècles qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu par des œuvres a bien été faite. Il faut se reconnaître pécheur. Et cela se traduira par le baptême de Jean. Cette prise de conscience, c'est le retour des fidèles, retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, par la voie de la repentance. Mais ce qui est important, et de nos jours aussi essentiel, c'est que ce ne sont pas seulement quelques fidèles qui vont venir là au bord du Jourdain, confesser leurs péchés, se repentir, se laisser plonger dans l'eau. Il faut que cette action se passe dans les familles. Il y aura le retour du cœur des pères vers les fils. Les pères devant prendre conscience qu'ils n'ont pas été dans leur marche jusque-là ceux qui conduisaient à Dieu. Et que, sur la base des œuvres, tout est fini. Ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs et que l'accès à Dieu ne peut venir que par la repentance et la foi envers Dieu, Dieu lui-même, en grâce, donnant alors une réponse merveilleuse dans celui qui va venir. Le retour du cœur des pères vers les fils. Les pères confessant devant leurs fils qu'ils n'ont pas été des modèles de vie pour eux. Et faisant retourner le cœur des fils vers les fils voyant l'engagement des pères dans une vie s'attendant entièrement à la grâce de Dieu, reconnaissant l'état de pécheur, engagés eux-mêmes spontanément dans cette nouvelle voie. Ces trois retours, les fidèles d'un côté, mais dans les familles, les cœurs des pères vers les cœurs des fils vers les pères, montrent, si l'on peut dire, que cette prise de conscience, je suis pécheur, je ne peux m'attendre qu'à la grâce de Dieu, et se placer dans l'état qui convient, aller au Jourdain, s'y plonger, et attendre la réponse de Dieu, qui va venir parler en grâce, et attendre que la souveraine grâce de Dieu nous présente alors les merveilles de celui que Dieu a envoyé.
La lecture que nous avons faite la dernière, au chapitre 3e de Luc, nous montre ce serviteur dans la plénitude de son service, un service d'une vigueur extraordinaire, puisqu'il n'hésite pas à s'adresser au peuple d'Israël en leur disant « Race de vipères, qui vous a appris à éviter la colère qui vient ?» Nous pourrions nous demander, je pense que cette question est montée à l'esprit de chacun, quel était le but qui était donné à Jean-Baptiste. Nous l'avons lu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, et je rappellerai ce verset, au verset 2, « Car le royaume des cieux s'est approché. » Le royaume des cieux s'est approché. Effectivement, tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé de ce royaume qui, un jour, devait dominer la terre tout entière. Et le moment était venu, Dieu allait confier à Jean-Baptiste l'annonce d'une façon imminente de ce royaume. Ce royaume, nous est-il dit, est le royaume des cieux, à la différence de tous les royaumes qui caractérisent la terre et qui restent de la terre. Le royaume de Dieu allait être le royaume des cieux parce que son siège, la source de son autorité, ne serait plus sur la terre, mais elle viendrait du ciel. Ce royaume avait des lois, et c'est aussi au début du ministère du Seigneur Jésus que nous voyons à nouveau ce royaume présenté. Et le Seigneur énumère dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, toutes les lois concernant ce royaume dont Jean avait déjà parlé et que le Seigneur allait établir. Les Juifs, on nous l'a rappelé, étaient sous la domination romaine, laquelle s'exerçait par l'intermédiaire de celui qui était appelé Hérode et qui n'était qu'un Iduméen, un descendant d'Édom, ennemi de Dieu. Les Juifs devaient supporter cette injure, si l'on peut dire, tomber sous la domination des païens et devoir obéir à un roi idolâtre, à un roi qui n'était pas un juif. Et beaucoup parmi ce peuple avaient réalisé cela et souffraient de cet état. Et parmi ceux-ci, nous pouvons reconnaître ce petit résidu dont il est parlé dans Matthieu et dans Luc, et dont il nous a été aussi parlé, un petit résidu dont on peut compter les membres dès le commencement de ce que nous avons vu. Il y avait sans doute Zacharie et Élisabeth, mais il y avait également Siméon, il y avait Anne. Donc, un résidu dont l'expression ici, par ces quelques noms que nous connaissons, était effectivement très faible. Ceux-ci, demeurant dans la crainte de Dieu, attendaient eux aussi la venue de celui qui devait être leur roi, le Messie Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste avait été celui qui devait être le précurseur de Jésus. Oh, de bien peu de temps, Jean-Baptiste et le Seigneur n'avaient que quelques mois de différence dans leur âge. Et quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, peu de temps après, le Seigneur aussi s'est levé. Et à ce royaume, comment pouvait-on y avoir accès? Il n'y avait qu'un moyen, prêché par Jean-Baptiste, et on y a assez insisté, la repentance. Il fallait que tous ces Juifs, auxquels était adressée cette épithète et ce qualificatif de race de vipères, cessent de se confier dans leur formalisme et à se prévaloir de leur descendance d'Abraham. Ils n'étaient pas les seuls. Au cours des évangiles, nous voyons d'autres juifs faire état de leur ascendance. Mais ce n'était pas avec cela que l'on pouvait entrer dans ce royaume qui allait être instauré. Il fallait la repentance et il fallait, pour marquer cette repentance, accepter le baptême que Jean donnait au Jourdain, qui s'appelle le baptême de la repentance, qui n'est pas à confondre avec le baptême que nous pratiquons aujourd'hui, le baptême de la grâce. Ce royaume devait donc être un jour, mais nous savons pourquoi il n'a pu se réaliser. Le Messie, celui qui devait en être le roi, celui qui était annoncé par Jean-Baptiste, a été repoussé et l'avènement de ce royaume a dû être différé pour laisser place à une autre dispensation à la base de laquelle il devait y avoir ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que l'un de nous a énoncé tout à l'heure, la rédemption. Christ lui, roi rejeté par les Juifs, allait devenir ce sauveur et établir la dispensation de la grâce. Les trois premiers évangiles nous parlent toujours de Jean-Baptiste annonçant son royaume, et il faut aller à l'évangile de Jean pour entendre de la bouche de Jean-Baptiste une autre vérité qu'il était amené aussi à confesser devant le rejet qu'il sentait de celui qu'il présentait. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons besoin de voir dans la succession des temps ces différents moments pour que nous saisissions plus clairement le déroulement des choses. Et c'est pour cela que nous avons à considérer ces temps différents qui ont été le fait du ministère de Jean-Baptiste et ensuite du ministère du Seigneur qui lui aussi a annoncé ce royaume et qui aurait été érigé si ce royaume avait été reçu et si les Juifs avaient accepté de se soumettre à ce que Jean-Baptiste leur disait, de renoncer à leur état moral, de s'en humilier, de se repentir et de prendre cet état nouveau dans lequel ce royaume aurait pu être établi. Mais nous savons que tel ne fut pas le cas.
Quelques mots seulement au sujet de cette expression « royaume des cieux ». Elle appartient à un ensemble d'évocations de royaumes dont nous entretient l'Écriture et qui, d'une manière générale, se rattache au royaume de Dieu. Royaume des cieux, dont il n'est fait mention que dans l'évangile messianique, l'évangile de Matthieu. Le peuple est amené par Jean le baptiseur à recevoir le message du précurseur du Messie afin que le cœur de ce peuple soit favorablement disposé par la repentance pour que le Seigneur, étant reçu comme roi et Messie, puisse établir son royaume, qui avait fait l'objet des prophéties comme le Seigneur lui-même, l'objet de prophéties dans l'Ancien Testament. C'est une mise à l'épreuve particulière de ce peuple terrestre qui s'est toujours démontré infidèle et contredisant, qui a rejeté ses prophètes. La fin du second livre des Chroniques est là pour nous traduire le cas que ce peuple a fait des prophètes qui lui ont été envoyés. Que va-t-il faire? Quel cas va-t-il faire de ce dernier prophète, Jean le baptiseur, qui est envoyé comme un messager apportant un message d'une valeur toute particulière? On peut encore souligner, en rapport avec ce caractère d'homme de Dieu si particulier de Jean le baptiseur, c'est qu'il s'efface absolument. Il n'est même pas un porte-voix, il est la voix. Celui qui transmet le message, comme doit le faire tout serviteur, dans son intégrité, la vérité dans sa pureté. Il va annoncer l'avenue du Seigneur et l'état du peuple que requiert une telle venue et qui ne peut être produit que par cette repentance. Afin que ce royaume des cieux puisse s'établir. Mais l'annonce de ce royaume, et si ce royaume eût été établi en cas d'acceptation, de réception du Messie, nous voyons qu'il ne comportait pas l'œuvre de la croix. C'est un royaume de caractère moral, d'où tous les enseignements que donne principalement le Seigneur dans ses divers sermons sur la montagne, qui font l'objet des chapitres 5 à 7 de l'Évangile selon Matthieu. Mais nous ne voyons pas la mention de son œuvre, puisqu'il aurait alors été reçu. C'eût été un état moral du peuple acquis par la repentance, c'est la responsabilité de l'homme, et en vertu des entrailles de miséricorde de Dieu, c'est le côté de la souveraine grâce de Dieu à l'égard de ce peuple. Et si le peuple avait été disposé de manière heureuse, le Seigneur aurait pu introduire cette sphère de bénédiction à l'égard de son peuple terrestre. Nous savons que son message et la personne même du Seigneur ont été rejetés. De telle manière que le Seigneur se tournera alors vers les nations, sortant de la maison d'Israël, c'est ce que nous trouvons à la fin du chapitre 12 et à l'ouverture du 13e chapitre de Matthieu, pour s'asseoir au bord de la mer, figure des nations, et pour donner des messages de nature très différente, à savoir ce que sera ce royaume des cieux, révélé en mystère, lequel alors n'a pas fait l'objet de prophétie, mais qui ne pourra être établi qu'en vertu et en résultat glorieux de l'œuvre de la rédemption et de l'action de la parole pénétrante, opérante, l'œuvre régénératrice de la parole, ce dont nous montre la parabole qui introduit cet ensemble des six paraboles du royaume des cieux du chapitre 13. La première étant celle qui n'est pas comptée au nombre des paraboles du royaume du semeur. Mais le Seigneur rejeté a-t-il renoncé à son titre de roi? A-t-il renoncé à son droit au royaume? Nullement. Il pourra confirmer son titre de roi même devant Ponce Pilate. Et son royaume s'établira, car ce que Dieu a décrété, il le produira indépendamment de ce qu'est l'homme. Et ce royaume s'établira dans un temps futur, c'est le règne millénaire, et il aura une gloire, une puissance et une extension beaucoup plus grandes qu'aurait eu le règne si le Seigneur avait été reçu comme roi et comme Messie. Entre le roi rejeté et le royaume qui n'a pas pu s'établir, et le règne millénaire qui s'établira selon le propos éternel et inflexible de Dieu pour la gloire de son Fils, entre ces deux se trouve alors ce royaume de Dieu révélé en mystère, c'est l'économie de la grâce, c'est la chrétienté.
Le caractère d'un homme de Dieu, c'est qu'il est d'abord à l'école de Dieu avant de paraître en public, et c'est ce qui caractérise Jean. Rien ne nous est dit sur son enfance, sa jeunesse, et il apparaît, il est suscité au moment convenable, au moment où Dieu va l'employer. Un autre caractère, c'est que pour pouvoir parler à la conscience et pour parler de séparation, il faut être soi-même séparé. C'est pourquoi il est là dans le désert, lui-même, donnant l'exemple au peuple d'un cœur entièrement pour Dieu. Un autre caractère encore, c'est qu'il introduit l'autorité divine. Quand il dit « le royaume de Dieu s'est approché », en fait, le roi s'approchait. Le roi lui-même allait se présenter à son peuple, à ce peuple abaissé, humilié et repentant, qui, par la prédication de Jean, était préparé dans un état convenable. La vérité entre toujours par la conscience dans un homme. Et voilà, la vérité entrant par la conscience, le peuple était préparé pour accueillir et reconnaître celui qui s'approchait. Et qu'un autre signe allait désigner, c'est un signe venu du ciel, c'était la voix même du Père, c'était le Saint-Esprit descendu sur lui comme l'onction royale. Nous savons qu'à travers la parole de Dieu, l'huile nous présente toujours le Saint-Esprit. Eh bien, il allait y avoir cette onction sur le roi, cette désignation publique du Seigneur. Quel moment que celui-là! On a quelque chose dans l'histoire de Samuel, présentant David le bien-aimé, comme la voix qui venant du ciel dira « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». David signifie « bien-aimé ». Et le bien-aimé, David, le roi bien-aimé, qui est désigné par Dieu, le roi selon le cœur de Dieu, est oint par Samuel, qui, à plusieurs égards,
nous fait penser à Jean le Baptiseur. Mais une parole nous semble bien caractéristique dans le chapitre 3 de Matthieu. C'est la toute première sortie de la bouche du Seigneur dans l'Évangile. On l'entend et il semble qu'à cet égard, la première parole a une portée toute spéciale. C'est au verset 15, au moment où Jean se défend de baptiser celui dont il n'est que le précurseur, dont il ne se considère pas digne même de délier la courroie de la sandale, au verset 15 du chapitre 3 de Matthieu. « Laisse faire maintenant. » Car se laisse faire maintenant, ce maintenant nous semble traduire tout ce qui s'est fait avant. Et c'était l'activité de l'homme. Impuissante, déshonorant Dieu, n'amenant que ruine et désolation. Eh bien maintenant, la parole est à un autre. Laisse faire maintenant, Jean. C'est une nouvelle économie qui commence. C'est un nouvel état de choses. Laisse faire. Mais, chose très belle, le Seigneur ici ne dit pas « laisse-moi faire », mais il ajoute « il nous est convenable d'accomplir toute justice ». Il s'associe, Jean, dans cette introduction d'un nouvel état de choses. Toute justice va pouvoir être accomplie. Au milieu de ce peuple repentant et humilié, et l'introduction de ce royaume des cieux, où les cieux dominent, où l'autorité divine est reconnue, va pouvoir se faire puisque le roi est là. Ainsi, le précurseur introduit le Seigneur et reconnaît lui-même son autorité, et le Seigneur se l'associe pour faire sa volonté. Voilà, cette parole nous semble très belle et contenir tout un ensemble de pensées qui prépare le ministère du Seigneur, que Jean lui-même a introduit.
On pourrait ajouter à ce qui était dit que si le Seigneur est rejeté comme Messie, il lui est accordé une domination universelle comme Fils de l'homme. Et dans ce passage que nous venons de citer, que notre frère vient de citer, il y a une première chose, les cieux sont ouverts. À quatre reprises différentes dans le Nouveau Testament, nous trouvons cette expression. Les cieux sont ouverts. Et c'est toujours en relation avec le Seigneur. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que la voix du Père se fait entendre. D'abord, l'Esprit Saint descend sous une forme corporelle. Et puis, la voix du Père se fait entendre. Ce n'est pas seulement « Celui-ci est mon fils bien-aimé, ne le confondez pas avec les pécheurs que vous êtes. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Voilà la déclaration du Père à l'égard de son fils. Mais ce qui est important, c'est que dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste lui-même confesse qu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur le Seigneur. Et Jean-Baptiste annonce que c'est lui qui baptisera de l'Esprit-Saint, anticipant en quelque sorte ce que le Seigneur avait dit au chapitre 7, lors de la grande journée de la fête. Et l'Esprit n'étant pas encore, parce que le Fils n'avait pas encore été glorifié, eh bien, après la mort, après la résurrection, après l'ascension du Seigneur, après la glorification du Seigneur, le Saint-Esprit est descendu sur la terre en tant que personne divine le jour de la Pentecôte. Et Jean-Baptiste désigne le Seigneur comme celui qui baptisera de l'Esprit-Saint.
Jean le baptiseur n'est qu'une voix, un envoyé, un ambassadeur. Si nous sommes dans l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du roi, précédé par Jean le baptiseur. C'est un homme puissant qui vient dans l'esprit d'Élie. Cet homme suscité, un prophète puissant, suscité pour ramener le peuple à l'Éternel, le peuple qui s'était livré culte des idoles, ne savait pas reconnaître sa droite et sa gauche. Et ici, Jean le Baptiseur vient dans l'esprit et la puissance d'Élie, séparé, comme on nous l'a fait remarquer, de ce monde, monde qui n'a pas changé aujourd'hui, et son message est sévère quand il dit « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient ?» C'est un message, ce sont des paroles percutantes et qui ont leur effet dans un résidu qui vient au baptême de la repentance. Repentez-vous. Eh bien, nous trouvons ces paroles aussi dans la bouche de notre Seigneur lorsque Jean a été livré. Seigneur peut reprendre les paroles de Jean disant « Le royaume de Dieu s'est approché ». Nous trouvons ceci dans l'évangile de Marc au chapitre 1er. « Repentez-vous et croyez à l'évangile ». Il y a une addition qui est faite au message de Jean. Le Seigneur paraît et une œuvre de rédemption va s'accomplir. Cette œuvre de rédemption qui sauve le pécheur, la vertu du sang qui purifie de tout péché. Eh bien, essentiel de la prédication de Paul plus tard, quelle est-elle? La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le message qui est encore annoncé aujourd'hui à la fin du jour de la grâce. Il faut se repentir. L'avons-nous fait? Nous adressons aux plus jeunes ici. Il ne peut pas y avoir de contact, de relation avec Dieu sans la repentance, sans cette confession de péché et ensuite accepter le Seigneur Jésus comme sauveur. Et la porte de la grâce va être fermée. Mais aujourd'hui, c'est un message de salut et de est adressé à chacun. Oh, nous ne voudrions pas que personne ici laisse passer le temps favorable, le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut.
Quel temps nouveau en Israël! Le prophète est là. Et de tous les lieux d'Israël, on accourt. Mais que dit-il? Et nous voyons dans ces chapitres 3 de Matthieu comme de Luc, des gens très divers venir au baptême de Jean. Ils baptisent. C'est un fait nouveau. Il n'y avait pas eu jusque-là de baptême d'eau, à proprement parler. Le baptême de Jean était en quelque sorte le signe qui accompagnait son message. Le signe, je vous plonge dans l'eau. Être plongé dans l'eau et y rester, c'est la mort.
les voies que vous avez menées jusque-là conduisent à la mort. Vous ne méritez, nous ne méritons que cela. Moi, je vous plonge dans l'eau. Mais le signe doit être le reflet d'un profond mouvement de conscience qui reconnaît que sur ce chemin-là, vous allez à la mort. Alors, qui vient ? L'évangile de Luc nous les détaille, ceux qui viennent. Il y a des foules qui viennent. Et au verset 11, par exemple, verset 10, les foules l'interrogent, disant, « Que faut-il que nous fassions ?» Répondant, il leur dit que celui qui a deux tuniques donne celui qui l'a besoin, que celui qui a des pieds en face de maître, plus de générosité. Et puis, des publicains vinrent aussi pour être baptisés, et ils dirent, « Maître, que faut-il que nous fassions ?» Et il leur dit, « Ne percevez pas au-delà de ce qui vous est ordonné, l'honnêteté dans la vie. » Et puis, des gens de guerre l'interrogèrent aussi, disant, « Et nous, que faut-il que nous fassions ?» Et il leur dit, « Ne commettez pas d'extorsion et n'accusez faussement personne. Contentez-vous de vos gages. » Voilà, en quelque sorte, la repentance conduit à des transformations pratiques dans la vie courante, se comporter autrement. Mais nous constatons à travers tout cela, ce sont les petits, ce sont des êtres, ce sont vraiment ceux qui ont des besoins, qui sont là et qui demandent. Ceux qui ont précédé, pour lesquels il a été dit « race de vipère », il faut peut-être retourner à l'évangile de Matthieu, qui nous donne un peu le détail de ceux à qui s'adresse plus particulièrement cette parole. Dans Matthieu 3, nous lisons ainsi, au verset 7, « Et voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient, produisez donc du fruit qui convient à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous dis que Dieu peut de ses pierres susciter des enfants Abraham, et déjà la cognée est mise à la racine des arbres, etc. » Voilà une autre catégorie. Les petits, les faibles, ceux qui ont des besoins sont venus. Que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Nous avons là comme le cri du geôlier de Philippe, que faut-il faire pour être sauvé ? Eux qui viennent avec des besoins, le désir que leur vie change. Et elle ne le peut l'être que par la repentance. Et ils sont prêts à la repentance. Et d'autres qui viennent, les pharisiens, ils sont mandatés par Jérusalem et ils viennent. Comment ? Ils ne parlent pas le langage des pères. Est-il vraiment un prophète ? Et ils viennent. Nous sommes fils d'Abraham. Qu'as-tu à dire des fils d'Abraham ? Vous êtes une race de vipères. Race de vipères. Et le mal est tellement avancé qu'il doit leur dire que Dieu ne va pas seulement enlever quelques branches en Israël. C'est depuis la racine même que le mal est là. L'orgueil, l'égoïsme. Toutes ces choses que vous avez cultivées et que vous entretenez, l'orgueil même dans la religion que vous présentez, tout cela. Et le mal est si profond que c'est même la racine qui va être tranchée. On ne peut plus émonder les branches. Tout l'arbre est mauvais. Tout doit disparaître. Et voilà quel était ce message donc de Jean. Oui, le royaume. Mais le royaume est déjà, le roi s'est approché. On l'a dit tout à l'heure. Et c'est essentiellement cela, dans Matthieu et dans Luc. Le roi s'est approché. Le royaume peut être établi. La personne est là. Il est là au milieu de vous-même. Mais soyez dans l'attitude qui convient, c'est-à-dire celle de la repentance, et le signe de la repentance était dans ce baptême de Jean, où nous voyons, et on l'a déjà évoqué, qu'un jour, le Seigneur à son tour va venir.
Donc de venir au baptême de Jean. Et ce qui vient d'être dit est souligné par le Seigneur Jésus lui-même dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Et ces deux catégories de personnes, ce sont d'une part les publicains et d'autre part les pharisiens. Il reste encore aujourd'hui deux façons de venir au Seigneur. Et lorsque Jean-Baptiste dit « Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance », une vraie repentance est donc suivie d'un fruit pour Dieu. Et nous pouvons penser que Jean, en se tenant strictement au service que Dieu lui avait confié, considérait attentivement ceux qui venaient au baptême de la repentance. Et étant rempli du Saint-Esprit, il pouvait discerner ceux qui y venaient en confessant réellement leurs péchés avec le désir de les abandonner. Et il voyait aussi ceux qui venaient d'une autre manière. Et le Seigneur Jésus le relève dans l'Évangile de Luc au chapitre 7. Sans doute c'est le sujet de l'après-midi, mais Jésus dit au verset 28, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur, mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Et alors voilà le verset que nous désirions placer sur nos cœurs. « Et tout le peuple qui entendait cela, et les publicains, justifiaient Dieu. » Voilà une attitude qui justifie Dieu. Pourquoi ? Ayant été baptisé du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi rejetaient contre eux-mêmes le conseil de Dieu n'ayant pas été baptisés par lui. Ils rejetaient contre eux-mêmes le conseil de Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, question a été posée au Seigneur, nous savons comment le Seigneur, dans sa sagesse, n'y répondra pas. Mais ensuite, Matthieu 21, milieu du verset 31, pour écouter, Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis que les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. » Voilà, il est rappelé maintenant le royaume de Dieu, où l'autorité de Dieu est reconnue. Eh bien, les publicains et les prostituées devançaient les pharisiens dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru. Voilà ce qui compte, c'est de croire ce que Dieu dit, de l'homme, ce qu'il est dans sa misère, dans son péché. Zacharie l'a dit d'ailleurs dans son cantique. Il parle de trois choses de l'homme. L'homme est caractérisé par quoi ? Il est assis dans les ténèbres. Il est dans l'ombre de la mort. Et il est dans le péché, dans la rémission de leur péché. Voilà ce qu'est l'homme. Il faut le croire, cela. Et cela, les pharisiens et les docteurs de la loi et tous ces gens religieux ne le croyaient pas. Ils ne justifiaient donc pas Dieu, mais les publicains et les pécheurs qui confessaient réellement leurs péchés, qui reconnaissaient leur misère, ceux-là venaient au baptême de Jean dans une condition que Jean avait discernée et qui plaisait au cœur de Dieu. Et sans doute c'est d'une part par ce résidu qui attendait le Seigneur et d'autre part par ceux de ce peuple qui avaient réellement confessé leur péché, c'était cela que, par le ministère de Jean, Dieu préparait pour son envoyé, pour son fils, un peuple qui allait avoir un cœur bien disposé. Il n'en est pas autrement aujourd'hui. Tout vrai serviteur de Dieu doit accompagner ce que Dieu lui dit de la prédication de la repentance et de la rémission des péchés. Il faut cela. Et il faut que nous sachions discerner les caractères d'une vraie repentance. Jean est celui qui a fait pleurer. Il est celui dont le Seigneur dit qu'il a annoncé des complaintes. Il a rappelé au cœur de ceux qui étaient là ce qu'ils étaient. Eh bien, Dieu veuille aujourd'hui aussi que nous puissions avoir, étant remplis du Saint-Esprit, le discernement qui nous permet de voir dans les âmes une vraie repentance accompagnée de fruits qui justifient Dieu. Un frère que nous avons bien connu, plusieurs parmi nous l'ont connu maintenant près du Seigneur, parlait de ce qu'était une vraie conversion, une vraie repentance est toujours liée à une vraie conversion. C'est quoi une vraie conversion, disait-il? Eh bien, quand on effectue son service militaire et que celui qui commande la troupe s'adresse à ses hommes, il dit ceci, parfois dans ses ordres. Halte, demi-tour, en avant, marche. Voilà ce qui caractérise une vraie conversion. C'est halte, c'est demi-tour, c'est en avant et marche. Les nouveaux fruits sont produits.
Simplement dire que l'apôtre Paul ne parle pas différemment dans Actes 26, quand il dit qu'il parle de son ministère, qu'il n'a pas été désobéissant à la vision céleste, et il est parti. Et quel était son message? Verset 20 du chapitre 26, à tous de se repentir, de se tourner vers Dieu en faisant des œuvres convenables à la repentance. Une chose que nous n'avons pas certainement à perdre de vue. Ces œuvres convenables à la repentance qui montrent une réelle conversion.
C'est ce qu'il confirme aussi aux anciens d'Éphèse quant à un des axes très importants de son activité. Il pouvait dire, insistant au chapitre 20 des Actes, et auprès des Juifs et auprès des Grecs, il n'y a donc pas de différence pour Dieu, sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que confirme aussi Pierre dans son troisième discours, au chapitre 3 du même livre des Actes, « Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. » Et nous retrouvons l'illustration de ce qui vient d'être dit, tant est importante la repentance, dans la parabole du fils prodigue, au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Et il est très beau de voir tous ces mouvements que Dieu produit dans ce cœur qui est vraiment travaillé à bout de ressources, si on peut dire, puisqu'il avait faim, et il est dit « et étant revenu en lui-même ». Voilà le travail de conscience, voilà la repentance. Et il dit « combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance et moi je péris ici de faim ». Il constate donc qu'il y a une abondance de nourriture chez son père. Et c'est cette bonté de Dieu qui pousse les hommes à la repentance. C'est toujours Dieu qui fait tout le travail. Et alors nous voyons, à la suite de cette constatation, le fait qu'il meurt de faim. Et il ajoute au verset 18, « Je me lèverai et je m'anirai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. » Voilà ce qui illustre la conversion. Il s'arrête et il est tourné maintenant vers la maison de son père. Mais le point de départ, c'est ce travail de cœur et de conscience produit par la bonté de Dieu qui agit en profondeur. Et il est tout à fait important, pour reprendre cet ordre qui est donné par Pierre, d'insister sur ce réveil de conscience, plus que jamais. Et c'était le message de Jean le Baptiseur, tout à fait remarquable et combien puissant par l'Esprit de Dieu. Travail de conscience, c'est donc l'âme qui comprend en quelque sorte son état devant Dieu, son état moral, et qui en a, pour ainsi dire, horreur d'elle-même et horreur de sa conduite. Elle constate que sa vie antérieure a été marquée par les actes que sont les péchés, et plus que cela, la nature qui produit ces péchés est mauvaise. Et c'est un jugement profond qui est passé sur cette conduite passée et sur ce qu'il en est de l'homme en Adam. Et ce n'est pas la conversion, nous l'avons vu dans le cas du fils prodigue, ce n'est pas la foi non plus, la foi est tout à fait nécessaire, c'est au moment où l'âme sent sa profonde misère, son état de perdition totale sur le plan moral et spirituel, qu'elle accepte par la foi au Seigneur Jésus le message de la croix. Et alors elle reçoit l'amour de la vérité pour être sauvée. Et il y a alors une jouissance de l'âme qui reçoit ce que Dieu lui offre par la foi, qui est en effet cette main tendue vers Dieu suite à la constatation d'une vraie misère morale. Et Dieu offre sa grâce en abondance. Elle est comme le fleuve immense qui coule de Golgotha pour rafraîchir tous ceux qui ont soif de vérité, de vie, d'amour.